particulier avec vous. Je vous le dirai après. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans rien faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Le sujet que j'aimerais aborder avec vous ce soir, c'est le doute. Qui n'a jamais douté ? Levez la main. Pas tous en même temps. Hein. C'est quelque chose d'humain, on va le voir. Hein. Le doute, c'est un raisonnement qui remet en question l'existence ou la vérité d'une chose, détruisant ainsi la certitude. Il est donc à l'opposé de la foi qui, elle, est une ferme assurance. Amen. C'est un petit peu ce qui nous est dit par rapport au doute. L'incrédulité, c'est quoi ? Eh bien, c'est le refus délibéré de croire, même devant l'évidence. Ça, donc, c'est l'incrédulité. Tandis que le doute, c'est une forme d'hésitation, un petit peu comme le définit Jacques. Jacques dit que celui qui doute est comme un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Il est ballotté. Vous voyez ? Eh oui. Alors, le doute engendre quoi ? Mais il engendre la crainte. Il engendre l'inquiétude, la peur. Eh oui. Il empêche également de prier. Il interrompt également la communion avec Dieu. C'est un sentiment d'incertitude qui remet en cause bien des choses, à commencer par le fondement de la foi, qui est la parole écrite. La Bible, la parole de Dieu, on la remet en question quand on doute. Parce qu'elle nous dit des vérités et nous nous disons, je ne sais pas si je peux y croire. Je suis dans l'incertitude. Eh oui. Il détruit la confiance en Dieu concernant déjà la gratuité du salut, hein, accordé, nous le savons, par l'unique moyen de la foi en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a tout accompli sur le bois de la croix. Il ébranle la foi quant à la guérison de nos maladies, par la prière, par l'imposition des mains, par l'onction d'huile également, on en a parlé tout à l'heure. Eh oui, le doute balaye tout ça. Le doute remet en question le baptême du Saint-Esprit, avec la manifestation de cette puissance et les dons spirituels, bien sûr. Enfin, le doute, il éteint l'espérance dans l'avènement du Seigneur Jésus. Le Seigneur va revenir. Il va revenir nous chercher. Celui qui est dans le doute, il dit, j'ai envie d'y croire, mais je ne sais pas. D'ailleurs, certains m'ont dit, depuis le temps que vous l'annoncez, le retour de Jésus, il se fait attendre. Vous voyez, le doute est là. Eh oui. Alors, pourquoi douter ? Eh bien, c'est la question que Jésus a posée à Pierre. Matthieu, chapitre 14, verset 31, il va lui dire, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mettez-vous à la place de Pierre. Et il y a quelqu'un sur l'eau, là, qui marche, qui vient à leur rencontre. Et puis, Pierre, avec hardiesse, va dire, « Mais si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille en marchant sur l'eau vers toi. » Pierre, viens. Je ne sais pas s'il a réfléchi, je ne pense pas. La parole de Dieu, la parole du Seigneur, pardon, il m'a dit viens, je viens. Mais une fois qu'il est sur cet élément liquide qui le porte, qui n'aurait pas cogité en entendant le vent qui se devait souffler à ses oreilles, bien sûr. Hein. Alors, à un moment donné, il a douté, puis il a commencé à prendre le bouillon, comme on dit. Il aurait pu boire la tasse complètement. Mais le Seigneur a tendu la main et il l'a relevé. Alors, Le doute fait partie de la nature humaine et je dirais que nous y sommes tous confrontés. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Les raisons de douter sont nombreuses et différentes. C'est peut-être dû à une situation dangereuse, bien sûr. Quand la situation dangereuse est là, l'affronter, mais comment ? Et comment s'en sortir ? Donc, quand Pierre a pris conscience de la force de la tempête, il a douté et il a commencé à couler. C'est peut-être une épreuve qui se prolonge. Une maladie dont on ne guérit pas. Ça peut être la mort prématurée d'un proche ou d'un enfant de Dieu. Ou alors une prière non exaucée. Et on peut rajouter comme cela de nombreuses causes qui amènent ou qui peuvent amener le doute. En tout cas, beaucoup de circonstances sont propices au doute, mais aussi des paroles, je dirais, de certaines personnes qui sont là pour aller quelque part nous ébranler quant à la foi, pour nous décourager. Quand nous sommes partis dans une certaine région, avec mon épouse, on devait aller dans une région et puis on est parti dans une autre ville. Et avant de partir, on nous a dit oh, « Vous allez là-bas ? » Alors, je ne sais pas où vous allez, hein. Je ne sais pas si vous savez où vous allez. Hein. Parce que les gens, ils sont glaciales. Tu te rappelles ? Ils sont glaciales, comme le climat de la région. Oh là ! Bizarre. On est en train de déménager, on va vite au McDo manger un morceau. Et là, je me trouve à côté d'une personne qui, elle, se met à me parler de toute sa vie. Tiens, les gens sont glaciales. Ou glaciaux, je ne sais pas si on peut le dire. Et puis, elle est en train de me parler, cette personne-là, est en train de me parler de sa vie. Elle était en train, de, quelque part, de se confier à moi. Je ne la connaissais pas. Hein. On était dans la file d'attente. Bon. Et puis, Dieu nous a bien bénis. Nous avons vécu, dans une année, 25 baptêmes de l'Esprit. Nous avons vu, je ne sais plus combien de personnes venir. C'est simple, on avait des personnes dans le hall d'entrée. Tellement il n'y avait plus de place. On mettait des chaises et les gens se mettaient jusqu'au bout. Voilà. Et Dieu nous a bénis. Et on s'est aperçu que ce n'était pas si froid que ça. Hein ? Ben, il y avait l'adversaire parce qu'il a fallu opérer des délivrances. Parce qu'il y avait de nombreuses possessions. Il y avait un travail du diable, de l'adversaire. Mais en tout cas, le Seigneur, lui, il n'est pas là pour quelque part nous faire peur, nous faire reculer. Mais il est là pour nous rassurer. Et il nous a pleinement rassurés. Notre foi n'a pas été ébranlée, on s'est régalé. Voilà, ça c'est le travail dans l'œuvre de Dieu. Alors également, ébranler la foi, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les 10 espions envoyés dans le pays de Canaan pour l'explorer, hein, un pays où coule le lait et le miel, où les productions sont énormes, magnifiques. Et oui, quand ils sont revenus, et Caleb et Josué, eux étaient certains que le pays était à eux. Et puis les autres, ils ont ébranlé la foi de tout le monde. Bizarre, hein ? Mais c'est comme ça. Ils ont vu la même chose pourtant. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? À leurs yeux, il y avait des géants. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Eh oui. Et puis comme ça, eh bien, ils ne sont pas rentrés dans le pays. Dans Actes 15, versets 22 à 24, ne cherchez pas, il nous est dit qu'une délégation composée de Paul, Barsabas, Barnabas, Silas, sont envoyés à Antioche parce que, eh bien, des hommes mal intentionnés, ils étaient allés et ils avaient comme cela ébranlé la foi des croyants en voulant leur imposer quoi ? Un retour à la loi. Ils voulaient leur imposer la circoncision. Alors qu'eux, ils avaient eu la circoncision du cœur. Il y a eu cette marque particulière dans le cœur. Vous savez, le diable est le semeur de doute. Il a commencé quand ? Eh bien, avec Adam et Ève, en insinuant que Dieu les avait trompés. Eh oui ! Le diable utilise d'ailleurs toutes sortes de personnes et de moyens pour détruire notre confiance en Dieu ou en quelqu'un. Il sait que la moindre insinuation va être suffisante pour faire naître en nous un commencement d'incertitude. Le doute arrive. Vous voyez ? Eh oui. Il y a Ève, Dieu a-t-il réellement dit : vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La question est posée. Eh oui. Alors, cette simple suggestion a suffi pour déstabiliser Ève, puis après Adam, et finalement les entraîner à la désobéissance. Il faut dire que le diable également n'a pas à chercher bien loin pour trouver des collaborateurs, au sein même, quelquefois, des institutions chrétiennes. Eh oui. Les semeurs de doute, ceux qui s'exercent uniquement à l'analyse intellectuelle des textes de la Bible. Certains théologiens, les traducteurs, ou je dirais les coutumes religieuses, les traditions, hein, tout cela, quelque part, fait obstacle à la vraie foi et amène des personnes comme cela, eh bien, loin de la vérité. Sème le doute. Pour certains docteurs en théologie, la Bible n'est plus la parole de Dieu, mais simplement un livre qui contient des paroles de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu. Alors, quant à ces paroles, faut-il savoir lesquelles ? Puisqu'ils contiennent des paroles de Dieu. Parce qu'à force de l'expurger, de la vider, de son contenu, qu'est-ce qui reste de la vérité ? La vérité de Dieu, bien sûr. Le surnaturel, les miracles, les manifestations du Saint-Esprit et de ses dons posent également problème à certains croyants. Est-ce de Dieu ? Baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce de Dieu ? Ou simplement de la pensée humaine ? Peut-être même un mauvais esprit. Eh oui ! Et là, on y est, ça y est. Le doute est semé. Mais je ne veux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si je me prends quelque chose de mauvais. J'en ai rencontré des personnes. Je pense que tu as également rencontré des personnes comme moi, hein, qui doutent de cela, bien sûr. Pourtant, Jésus a posé, lui, le fondement de la confiance qu'un véritable enfant de Dieu doit avoir à l'égard de son Père céleste. Luc, chapitre 11, verset 11. « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils, il lui demande du pain. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien, à combien plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Dans la Bible, il n'y a aucun exemple d'un enfant de Dieu véritable qui aurait été trompé et de ce fait, eh bien, serait devenu une proie d'un esprit malin, mauvais, méchant. Après avoir demandé le Saint-Esprit, avec le parler en langue, signe initial. Il y a donc une aberration. De telles théories installent le doute, détruisent bien sûr la foi dans les promesses, dans la fidélité, la vigilance de Dieu, dans notre Père céleste. De ce genre d'affaires, le diable, lui, il trouve son compte. Quand justement ces choses-là sont manifestes, qu'on les entend, et que justement quelqu'un se fait, excusez-moi, mais harponner par cela, eh bien oui, là, le diable, il trouve son compte. Hein. Lui, il est constamment à l'œuvre pour nous faire douter de Dieu, de sa bonté, de sa vigilance, de sa parole également. Mais a-t-il vraiment dit ? Voyez ? Et puis, mais il faut lire entre les lignes. Ça, on me l'a dit. Oh là là ! Alors, comment chasser le doute ? Eh bien, l'apôtre Jacques a écrit au sujet du doute ceci. Jacques, chapitre 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Dans le passage que nous avons lu de Luc, chapitre 11, verset 11 à 13, Jésus met l'accent sur le fait que nous puissions craindre de recevoir autre chose que ce que nous demandons, et même des choses nuisibles, dangereuses, mauvaises. Voyez, c'est insidieux, mais c'est là. Il s'agit donc de se débarrasser ou de débarrasser notre cœur de toute crainte et de remplacer, je dirais, ce sentiment malsain par un sentiment de confiance absolue. Amen. Dans la fidélité, dans l'amour de notre Père céleste, il nous aime. Et je pense qu'en tant que père, en tant que parent, en tant que maman, eh bien, qu'est-ce que nous voulons ? Le meilleur pour nos enfants. Nous voulons qu'ils aient des certitudes, qu'ils marchent dans le chemin sans avoir peur, avec confiance, qu'ils avancent dans la vie, qu'ils réussissent leur vie mieux que nous. C'est pas vrai ? Eh bien, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il ne veut pas nous tromper. Donc, s'il y a un doute dans ton cœur, quant à certaines choses que Dieu t'a dites, chasse le doute. Approche-toi de Dieu. Amen. Jésus dit, donneriez-vous de mauvaises choses à vos enfants qui vous demandent de bonnes choses ? Non. Non. Alors, si nous prions sincèrement notre Dieu, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait se glisser ou s'immiscer entre lui et nous ? Impossible. Pourquoi ? Parce que le Seigneur ne le laissera pas faire. Il veut le meilleur pour nous. Il veut justement que nous puissions marcher avec foi dans la tranquillité, dans la paix. Alors, penser cela, c'est quelque part mal connaître Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de s'approcher de lui. Encore plus, eh oui. Ayons confiance en Dieu, en son Fils Jésus. La confiance est un des éléments essentiels dans le domaine de la foi. Une confiance absolue dans la vigilance, je dirais, et la bonté de Dieu à notre égard, va nous débarrasser de tout sentiment de crainte. Amen. Va permettre également de nous permettre d'avancer joyeusement, reconnaissant avec notre bon Père céleste, pour recevoir de lui eh bien, l'accomplissement, la promesse, la réponse à la prière. C'est comme ça que ça marche. Faisons de la confiance quelque part, je dirais, une affaire personnelle entre Dieu et nous. Personnelle entre Dieu et nous. Et disons comme Ésaïe, chapitre 12, verset 2, « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Amen. Lorsque le diable a abordé Ève, il a mis en cause la vérité même de Dieu. Et je crois qu'il faut tirer une leçon de cet événement. Ne jamais discuter avec les semeurs de doute. Parce que là est notre problème. Quelquefois, nous prenons trop de temps avec ces gens-là. Je vous disais tout à l'heure, comme on me l'a dit, certainement on vous l'a dit, mais votre Jésus revient quand ? Depuis le temps que vous l'annoncez. Il n'est pas encore revenu. Vous y croyez encore ? Ben oui. Ben oui. Tu n'y crois pas ? Écoute, c'est ton problème. Moi, le mien, il est résolu. J'ai foi en lui. Et je sais qu'il va revenir. Amen. Au contraire, suivre l'exemple de Jésus. Jésus a été tenté, nous le savons, dans le désert, 40 jours et 40 nuits. L'adversaire, c'est lui qui justement voulait l'user, l'amener tout simplement bien dans son camp à lui. La seule arme de Jésus a été « Il est écrit ». Amen. Il n'a pas eu autre chose, il n'a pas essayé de l'amadouer. Non, « Il est écrit ». Tu ne tenteras point le Seigneur, etc., etc. Alors, il faut revenir encore et toujours à la parole écrite de Dieu, la parole de Dieu. L'apôtre Paul a écrit ceci de Corinthiens chapitre 10, verset 4. « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. » Et quelquefois, on raisonne un peu trop au lieu de croire. Donc, nous faisons taire, nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La parole de Dieu, qui est bien sûr l'épée de l'esprit, c'est une arme puissante, une arme efficace pour résister, pour vaincre justement les raisonnements qui produisent le doute et l'incrédulité. Sachons-nous aussi dire, il est écrit, et nous le dire à nous-mêmes, quand quelque part il y a petit poison qui s'immisce en nous, là. Mais Seigneur, il ne peut pas accomplir ça. Qui te dit qu'il ne peut pas ? C'est toi qui te le dis. Mais qui tu es, toi ? Il faut se le dire, hein, qui suis-je ? Mais pas grand-chose, j'ai besoin de Dieu. Amen. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit, Hébreux 4, 12, « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Nous avons besoin, quelque part, de nous soumettre à la parole de Dieu, de l'accepter comme elle est, de ne pas ajouter notre grain de sel parce que ça va gripper les rouages, ça ne permettra plus d'avancer, mais au contraire, ça va nous stopper. Vous savez, moi, depuis que j'appartiens au Seigneur, que je le sers, je m'efforce d'affermir, d'édifier, d'enseigner la foi par des enseignements simples, clairs. Amen. Fondés, bien sûr, sur la parole, inspirés par la parole de Dieu. Et c'est uniquement par elle, à l'aide du Saint-Esprit, que nous pourrons être gardés du doute. Amen. De cette semence empoisonnée que représente le doute. C'est Jacques, le frère du Seigneur, qui dira dans Jacques, chapitre 1, verset 1, 16 à 17, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et je crois que ces deux versets de l'Écriture de Jacques devraient nous revenir à l'esprit souvent. Amen. Toute grâce excellente et tout don parfait, ça descend d'en haut. Chez qui ? Eh bien, chez le Père des Lumières, chez lequel il n'y a pas de changement. Dieu ne veut pas dire oui, puis non. Il dit oui. Il n'y a pas une ombre de variation. Amen. Et je vais conclure par deux exemples. Il y en a beaucoup, bien sûr, mais je n'en ai pris que deux, qui nous enseignent justement la conduite à tenir. Le premier, c'est Abraham. Je remets chapitre 4, verset 19. Il nous a dit, Abraham, sans faiblir dans la foi, ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité déjà au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Premier exemple, Abraham. N'est-il pas appelé le père des croyants ? Le père de la foi, un modèle pour nous. Amen. Il n'a pas douté. Le deuxième, c'est Sarah. Ils vont bien ensemble, hein ? Eh oui. Dont il nous est dit que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. D'habitude, on est arrière-grand-père à 100 ans. Hein ? Il y a plus de 90 ans, vous ne croyez pas ? Au moins grand-père, ben eux, ils vont être papa et maman. C'est pas formidable? Le fils de la promesse va venir. Et puis Dieu va bénir toute l'humanité au travers d'eux. Voir à Dieu? Alors apprenons donc à considérer correctement la parole, les promesses de Dieu. Et je crois que nous ne faiblirons pas lorsque les semeurs de doute essaieront de nous faire douter, de nous amener dans leur camp. Hein. Et eux, ils sont incertains, mais nous, on a des certitudes. Amen. Ne laissez jamais le doute s'emparer de vous. Si ça s'est déjà produit, retenez la leçon. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez été relevé. D'accord ? Et maintenant, ne tombez plus dans les panneaux. Ne les prenez plus en plein visage. Mais gardez-vous en ayant une communion avec le Seigneur. Une bonne communion avec lui. Une communion saine, vraie, authentique. Gloire à Dieu. Je laisse la place.